Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour, bonjour à toutes, bienvenue sur Graphite 94.9 pour celles et ceux qui nous rejoignent pour cette dernière émission de l'après-midi autour du cours WE01, questionner le web, de l'Université de Technologie de Compiègne, mais dont vous pouvez retrouver l'intégralité du contenu sur librecours.net. On refera une série d'émissions mercredi prochain, et en fait ces émissions, elles sont créées par les étudiants et les étudiantes qui viennent présenter le résultat de leurs travaux, de leurs projets en fait du semestre, qui s'intéressent globalement aux grandes problématiques autour du web, mais plus généralement autour du numérique. Et pour cette dernière émission, on est donc en direct en studio avec trois étudiants et étudiantes. Bienvenue à vous, Daniela, Esteban et Pierre. Salut.
Bonjour.
Bonjour. Enchanté.
Et alors vous, vous allez nous parler notamment de réseaux sociaux à travers l'exemple de TikTok. On en parle beaucoup. Enfin, moi, j'en ai beaucoup entendu parler à travers le prisme de l'addiction, de l'attention. Mais vous allez traiter un sujet plus méconnu et pas des moindres. Et aussi de façon dont on n'entend pas beaucoup parler. Vous allez nous parler de réseaux sociaux alternatifs à ces gros réseaux sociaux que sont TikTok et les autres, mais j'en dis pas plus, c'est à vous.
Donc, nous allons vous présenter un article d'Amnesty International France qui s'intitule « Plonger dans l'algorithme de TikTok France, nos révélations ». Il a été publié le 20 octobre 2025. Il s'agit d'une publication institutionnelle à visée de plaidoyer qui se distingue d'un article de revue académique. Excusez-moi. Ce texte s'inscrit dans une série de travaux menés par Amnesty sur l'algorithme TikTok.
L'article s'appuie sur des témoignages de plusieurs ados et l'histoire est souvent la même. Ils téléchargent TikTok au collège pour s'amuser ou fuir le harcèlement. Sauf que l'algorithme repère directement qu'ils vont pas bien. Et le résultat, c'est qu'au lieu de les divertir, l'appli va les bombarder de vidéos morbides sur la dépression par exemple, sans qu'ils aient rien demandé.
Les jeunes psychologiquement fragiles sont donc les premières victimes du système de recommandation de TikTok. Si quelqu'un s'attarde sur une vidéo triste, l'algorithme, il l'interprète comme un intérêt et il l'enferme progressivement dans une boucle de contenu de plus en plus sombre sans qu'il l'ait cherché. C'est ce qu'on appelle le « rabbit hole effect ». Des parents témoignent directement de ces conséquences. Nous avons notamment Stéphanie et Jérémy, qui sont parents de deux adolescents victimes de TikTok, qui disent « Nos enfants deviennent des produits » ou encore « TikTok a maintenu notre fille dans le mal-être ». Justine Payou, une chargée de campagne d'Amnesty International, raconte qu'en seulement 40 minutes, son fil était envahi de contenu mélancolique et qu'elle s'est très très vite retrouvée dans une spirale de contenu dépressif et suicidaire.
Du coup, on peut se demander pourquoi TikTok fait ça. Et la réponse tient en un concept central qui est l'économie de l'attention. Sur cette application, l'utilisateur n'est plus juste un public, mais son attention est devenue la ressource marchande principale que TikTok va essayer de maximiser pour générer du profit. Et pour nous garder captifs, la plateforme va littéralement pirater notre cerveau en jouant sur nos circuits de récompense. Et le secret de cette addiction, c'est pas seulement de nous montrer des vidéos sympas, mais c'est surtout l'incertitude, puisque quand on scrolle, on sait jamais sur quoi on va tomber, que ça soit une vidéo triste, drôle ou ennuyeuse. Et c'est exactement ce côté aléatoire qui excite notre cerveau et déclenche des décharges de dopamine. Ensuite, à ça, il faut aussi ajouter un geste très simple, qui est le swipe infini, et on obtient une boucle parfaite où le cerveau réclame constamment sa prochaine dose de nouveautés. Mais face à l'inaction de TikTok et surtout à l'inefficacité totale des filtres de modération actuels que beaucoup d'ados contournent assez facilement avec des codes secrets, comme par exemple le drapeau suisse pour évoquer le suicide, Amnesty International a déposé un recours officiel auprès de l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour obliger TikTok à abandonner ce modèle économique et à enfin respecter les droits humains.
Donc, en vue de cet article, nous avons décidé de présenter le fait divers. Mais de quoi il s'agit ? Aujourd'hui, lorsque vous utilisez TikTok, Instagram ou Facebook, vous êtes en réalité sur des plateformes privées. Ces réseaux sociaux appartiennent à des entreprises qui décident de tout. Les règles à respecter, les algorithmes qui choisissent ce que vous voyez et même les évolutions de la plateforme. Si l'entreprise change ses conditions d'utilisateur, modifie son application ou décide un jour de la fermer, les utilisateurs n'ont pas leur mot à dire. Il faut simplement s'adapter. Le fait divers propose une approche complètement différente. Ce mot, d'abord, désigne un ensemble de réseaux sociaux décentralisés. Contrairement aux plateformes classiques, il n'existe pas de serveur central contrôlé par une seule entreprise. À la place, le réseau repose sur des milliers de serveurs indépendants gérés par des particuliers, des associations, des universités ou d'autres organisations. Chaque serveur possède sa propre communauté, ses propres règles et son propre système de modération. Pourtant, tous ces serveurs peuvent communiquer entre eux et former un seul grand réseau.
Pour comprendre ce que c'est le fait divers, il faut comprendre le principe d'un logiciel libre. Un logiciel libre, c'est un programme dont le code source est accessible à tout le monde. Concrètement, cela donne quatre libertés. La première, c'est utiliser le programme comme on veut. La deuxième, c'est lire et modifier le code de ce même programme. La troisième, le partager librement. Et la quatrième et la plus importante liberté implique que n'importe qui peut installer ce logiciel sur son propre serveur et donc créer sa propre instance.
Le fait divers y repose sur deux éléments principaux, les instances, comme dit précédemment, et la fédération. Tout d'abord, une instance, c'est un serveur généré par une personne ou une organisation. Quand on rejoint le fait divers, on choisit une instance, un peu comme on choisit un fournisseur de messagerie ou d'email. Chacun possède ses propres règles et sa propre communauté. Le second élément est la fédération. Elle permet aux différentes instances de communiquer entre elles. Ainsi, même si deux utilisateurs sont inscrits sur des serveurs différents, ils peuvent échanger et interagir normalement. Grâce à ce système et à l'utilisation de nombreux protocoles ouverts, tous les utilisateurs du fait divers peuvent communiquer à travers un seul et même réseau.
C'est donc là qu'interviennent deux concepts clés. Le premier, l'interopérabilité, et le deuxième, l'archipélisation. L'interopérabilité, c'est ce qui brise les jardins fermés. Sur Instagram et TikTok, impossible de suivre d'une plateforme à l'autre. Si un ami a Instagram et un autre a TikTok, ils ne peuvent pas se suivre ensemble. Ce sont des espaces qu'on appelle étanches. Dans le fait divers, c'est tout l'inverse. Un compte Mastodon peut s'abonner à une chaîne Peertube et commenter ses vidéos sans créer de nouveaux comptes sur Peertube. Tout ça grâce à un protocole commun appelé ActivityPub, une sorte de langue que tous les logiciels du fait divers parlent. Le philosophe Édouard Glissant nous donne donc une image pour comprendre ça, l'archipel. Chaque instance est une île avec sa propre culture et son propre usage. Peertube pour les vidéos, Mastodon pour le texte. Ces îles sont donc toutes différentes, elles ont toutes leur propre culture, mais elles sont reliées par un même océan que tout le monde peut emprunter. Cet océan, c'est la fédération. Et un problème se pose. Si chaque groupe crée son instance dans son coin et que ces instances ne se parlent pas, le problème principal perd tout son intérêt. Ce serait comme avoir des milliers de petits jardins fermés que chaque communauté entretienne de son côté sans jamais communiquer avec les autres. Ou encore, ce serait comme si Orange ne pouvait appeler qu'Orange ou SFR, SFR. Le réseau n'aurait donc aucune valeur.
Alors, comment on sort de ce piège algorithmique ? L'une des réponses, ce serait de changer radicalement de modèle. On l'a vu sur TikTok, l'addiction existe principalement pour une raison, qui est de faire de l'argent avec notre attention. Mais on pourrait aussi imaginer un réseau sans publicité et sans aucun actionnaire à satisfaire, et c'est donc ce que propose le fait divers, avec des outils comme Mastodon ou Peertube. C'est au lieu d'appartenir à une multinationale, ces plateformes sont hébergées par des assos, des écoles ou même juste des passionnés. Et la logique est donc très simple, comme il n'y a rien à vous vendre, la plateforme n'a plus aucun intérêt financier à vous garder scotché à l'écran, donc s'il n'y a plus de pression économique, l'algorithme n'a plus aucune raison d'exploiter nos failles psychologiques.
Et donc, face à l'algorithme opaque de TikTok, Amnesty International lance un appel très clair. Il faut redonner le contrôle aux utilisateurs. Et la solution, elle pourrait bien s'appeler le fait divers. Pourquoi ? Parce que TikTok, aujourd'hui, c'est une vraie boîte noire. Le code de l'application, il est complètement secret. En dehors de ByteDance, la maison mère, personne ne sait vraiment pourquoi telle vidéo s'affiche plutôt qu'une autre, ni comment le système nous manipule. L'utilisateur subit sans ne rien pouvoir changer. Le fait divers, c'est exactement l'inverse. Ici, on parle de logiciel libre. Tout le monde peut aller voir sous le capot. Résultat, c'est vous qui reprenez les commandes de votre écran. Vous voulez un simple fil chronologique sans aucun algorithme ? C'est complètement possible. Vous voulez bannir certains sujets ? C'est possible aussi. Alors que TikTok est pointé du doigt pour exploiter les vulnérabilités des adolescents, le logiciel libre, lui, supprime ce pouvoir de manipulation. Et, en clair, vous redevenez enfin maître de ce que vous regardez.
Ensuite, on l'a déjà dit, mais l'autre énorme faille de TikTok, c'est la modération. Et c'est là que l'archipélisation prend tout son sens. Sur TikTok, c'est impossible pour des humains de surveiller des milliards de vidéos, donc c'est une intelligence artificielle qui s'en charge, mais elle passe complètement à côté des codes secrets des ados. Dans le fait divers, grâce à ce système de petites îles, comme l'a expliqué Esteban, la modération redevient humaine et locale. Donc l'administrateur connaît sa communauté et s'il voit passer un émoji drapeau suisse qui pourrait lui paraître un peu louche, il comprend le danger et il peut agir vite. Et le vrai plus, c'est que si une île voisine devient toxique, il peut littéralement couper les ponts avec elle pour protéger ses propres utilisateurs.
En conclusion, nous pourrons dire que le fait divers, ça prétend pas être une solution miracle. Il reste techniquement complexe à prendre en main, peu connu et presque invisible face aux milliards d'utilisateurs de TikTok. La décentralisation, elle règle le problème de structure, mais elle ne garantit pas que les gens vont adopter ces plateformes, ni qu'ils y trouveront ce qu'ils cherchent. C'est une alternative réelle, mais elle ne sauvera pas à elle seule les adolescents dont parle le rapport d'Amnesty International. Merci de nous avoir écoutés, et si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, je vous conseille la radio Cause Commune, où il y a plein de podcasts, qui parlent de ces sujets.
Merci beaucoup à vous trois, Daniela, Esteban et Pierre, pour finir et peut-être avant de conclure et de poser une question si vous le voulez bien. Vous avez choisi une musique pour finir. Vous voulez en dire un mot?
Ouais, la musique, ce sera Dust in the Wine de Kansas, donc musique très connue. Et on l'a choisie de par premier abord parce qu'on l'aime bien. Et de deuxième abord, parce que c'est une musique qui parle du côté éphémère des choses que créent les humains. Et donc, on trouvait ça très intéressant de lier ça avec TikTok, qu'on peut noter comme le bastion de ce côté éphémère des choses.
Merci beaucoup, c'est parti, à tout de suite.
Oh,
Et de retour pour la fin de cette émission, Daniela, Esteban et Pierre, vous nous avez présenté les grands principes du fait divers, un genre de réseau alternatif de réseaux sociaux justement qui entend limiter les dérives possibles des gros réseaux sociaux centralisés, propriétaires. Donc vous nous avez donné la métaphore de l'archipel et plein de bonnes propriétés. Et moi, la question que je me posais, vous nous avez dit par exemple, si jamais on est sur une île et qu'il y a une autre île, donc on imagine que c'est mon petit genre Twitter sur mon île et un autre Twitter sur l'autre île et qu'on se suit les uns les autres, mais que ça devient toxique, je peux couper les ponts typiquement. Donc ça fait que je ne suis pas obligé, pour des soucis de modération, d'être à un seul gros endroit. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais sur mon île, sur mon réseau à moi, les gens qui administrent le truc, les gens qui ont vraiment les serveurs physiques, eux commencent à avoir un comportement qui ne me convient pas? Est-ce que je suis, en quelque sorte, même en restant connecté au monde, condamné à rester là ou pas?
Et pas du tout. Sur ce principe de faits divers là, le protocole du coup ActivityPub, il permet du coup de changer d'île. D'aller par exemple, si on Mastodon ça commence à devenir trop toxique, d'aller sur le compte PeerTube, et on pourrait se dire que si on quitte un compte Mastodon, ou comme si on changerait d'adresse ou on changerait de numéro de téléphone, ce serait compliqué, il faudrait prévenir tout le monde, retrouver ses amis, partager cette information. Mais là le protocole il change absolument tout, du fait que si nous on change de compte, c'est comme si on voyait même pas la différence. Pour reprendre un exemple plus commun dans la vie courante, c'est comme si vous changez le numéro de téléphone dans tous vos contacts en contact, le numéro serait changé automatiquement sans qu'ils aient rien à faire. Donc finalement, il n'y a aucun souci de changer ou de quitter une île s'il y a un côté toxique qui s'installe. Et même, c'est un rapport de force, puisque si une île commence à devenir trop toxique, des gens peuvent se partir en grande quantité et du coup quitter cette île, ce qui redistribue les rapports de force du coup entre les personnes qui détiennent les serveurs ou même l'entreprise et leurs utilisateurs. Donc c'est ça qui est vraiment important dans le fait divers.
Merci beaucoup pour ta réponse très claire. Je redonne encore une autre métaphore, parce que c'est difficile de se représenter ces histoires de fédération quand on a l'habitude des réseaux très centralisés. Mais c'est comme effectivement si par exemple on déménageait, tu as peut-être donné cet exemple aussi, on ne va pas être exactement au même endroit. La maison elle va être différente, l'environnement va être différent, donc on va peut-être avoir des règles un peu différentes parce qu'on est dans une mairie qui est comme ci ou comme ça. Mais pour autant, on est toujours en lien avec les gens avec qui on était en lien avant, justement. C'est pas comme déménager où là on peut s'isoler, c'est comme si on changeait de maison, mais qu'on pouvait toujours voir les mêmes personnes aussi facilement et qu'elles savaient où nous on était. Donc ça c'est une force intéressante du fait divers. Merci encore à vous trois pour votre travail et pour être venu présenter ça sur Graphite. Bonne fin de soirée, d'après-midi à tout le monde. Vous pouvez, si ça vous a intéressé, les sujets dont on a traité, écoutez mercredi prochain entre 15h et 19h, on aura encore des étudiants et des étudiantes qui nous présenteront leurs travaux. Bonne soirée tout le monde, merci encore, salut.